C'est sûr que ça va? Eh bien, bonjour à vous tous.
Bonjour.
Et merci du chaleureux accueil que vous nous avez tous bien voulu réserver à nous tous qui venons de Tananarive. Il y a moi-même, il y a le groupe de louanges, une partie du groupe de louanges de notre église à Nanterre. Je dis merci à ces jeunes qui chantent, qui jouent aux instruments. Chaque fois qu'on se retrouve, je me sens vraiment heureux, je sens la présence de Dieu et je m'en réjouis de tout cœur. Et je dis merci à nos jeunes. Merci à vous tous de cet accueil chaleureux dont nous bénéficions de votre part. Parlant de remerciements, j'aimerais m'adresser notamment au pasteur Antoine Nosek et à son épouse, dont l'invitation nous permet d'être parmi vous depuis hier. Ils nous ont fait cette invitation dès le mois de mai dernier, et je tiens vraiment à leur en dire merci. Merci aussi à toutes les familles qui ont bien voulu nous accueillir. Il y en a quelques-unes qui ont bien voulu accueillir, mais on ne pouvait pas se partager en quatre. Donc, vous n'avez pas pu nous accueillir. Merci de tout cœur pour votre bonne volonté, pour l'amour fraternel dont vous faites preuve à notre égard. En tout cas, sachez tous combien nous sommes sensibles à l'opportunité qui nous est donnée de vous bénir par les divers ministères dont Dieu nous a investis pour sa gloire. Et nous prions de tout cœur pour qu'en l'occurrence, nos interventions depuis hier puissent effectivement vous être en bénédiction. Je parlerai justement de bénédiction divine tout au long de ce message que j'ai à cœur de vous partager ce matin. Autant que possible, j'éveillerai votre conscience sur l'immense avantage de la multiplication des bénédictions de Dieu dans les différents domaines de la vie. Et de cette manière, j'espère vous amener à en désirer fortement l'expérience. Amen. Car je sais qu'aucun de nous ne doit se contenter des bénédictions qu'il a reçues et qu'il lui en faut toujours. Il lui en faut toujours plus pour régler ses problèmes et pleinement profiter de la vie. Je constate en effet que les bénédictions divines fonctionnent exactement comme des gouttes de pluie. L'avez-vous aussi remarqué? Aucune goutte de pluie ne peut rien changer sur la terre tant qu'elle n'est pas suivie de plusieurs autres. Il en est de même des bénédictions divines. Aucune d'elles ne produit les effets escomptés sans que d'autres ne la complètent. Tenez, la vie et la santé sont des exemples concrets de la bénédiction divine. Nous en avons tous reçu. La preuve en est que nous sommes bien vivants et en bonne forme dans cette salle. Mais que pourrait-il nous rester de cette vie et de cette santé si nous n'avions pas assez de moyens pour les protéger et les entretenir? Supposons seulement que Dieu ne nous avait rien donné à manger pendant 6 mois, car nous ne lui avions rien demandé. Serions-nous encore vivants et bien portants aujourd'hui? Bien sûr que non. Supposons également que nous disposions d'une énorme quantité de nourriture et de richesse, mais que Dieu ne nous avait pas laissé le temps d'en profiter qu'aurions-nous pu en tirer? À cet égard, Ecclésiaste chapitre 6, verset 2, fait une remarque particulièrement digne d'attention. Il y a un tel homme à qui Dieu a donné des richesses, des biens et de la gloire, et qui ne manque pour son âme de rien de ce qu'il désire, mais que Dieu ne laisse pas maître d'en jouir. Car c'est un étranger qui en jouira. C'est là une vanité, un mal grave. Mon ami, mon frère, ma sœur, cet homme dont il est question pensait avoir tout ce qu'il lui fallait. Mais il s'était gravement trompé, car il ne savait pas qu'en tout cas, le droit d'en jouir était la bénédiction qu'il devait encore recevoir de Dieu pour que son bonheur fût réel. Il n'avait pas eu ce droit, sûrement parce qu'il ne l'avait pas désiré. Il ne l'avait pas désiré parce qu'il en avait ignoré la nécessité. Et il n'en savait rien parce qu'il n'avait pas pris le temps de s'instruire auprès de Dieu. Voyez combien il est important de s'instruire auprès de Dieu, de prendre le temps que tout le monde semble ne pas en avoir, alors qu'il y en a. Le temps, c'est le même pour tout le monde. S'instruire auprès de Dieu, de façon à ce qu'on n'ignore pas toutes les bénédictions que Dieu a préparées pour chacun. En ce qui vous concerne, ce droit de jouissance est peut-être une réalité vécue. À l'heure actuelle, en effet, vous semblez librement faire tout ce que vous voulez de vos gains et privilèges. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Comment pouvez-vous être sûr qu'une erreur ou un abus quelconque de votre part ne va pas subitement vous faire perdre cette jouissance? Et comment pourriez-vous éviter un tel faux pas sans que d'autres bénédictions divines ne vous aident à maintenir votre bon équilibre? Il est possible que ce très indispensable complément de bénédiction soit constitué d'un homme, d'une femme, d'une famille, de quelques amis et voisins, d'une église, bien sûr, digne de foi. Oh, combien plus fort, plus raisonnable, plus équilibré, plus constructif et plus prospère peut-on devenir dans l'exercice d'un droit quand on est entouré, encadré, par des conseillers fiables. Mais à quel homme, à quelle femme, à quel individu, à quel groupe peut-on parfaitement se fier? Voilà une grande question. Et comment les reconnaître quand on n'est pas assez lucide, quand on n'est pas assez inspiré pour les mettre à l'épreuve? Et pour les apprécier à leur juste valeur. C'est bien beau d'avoir de la compagnie, mais quelle compagnie? N'étant pas capable de tout savoir, l'homme à propos de sa femme peut se demander, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, à qui ai-je affaire là? Qui est cette femme? Est-ce vraiment elle que Dieu a choisie pour moi? Oh là là, oh là là! Il en est de même de la femme à propos de son mari. Mon Dieu, mon Dieu! À qui ai-je affaire là? Qui est cet homme? Oui, qui est finalement qui? Qui m'est vraiment venu de Dieu? Dois-je patienter avec lui? Est-ce que cela vous est arrivé? Ah, bravo! Alléluia! Loué soit Dieu! Alléluia! Oh, combien notre tranquillité et notre prudence seraient grandes et édifiantes si chacun de nous pouvait avoir à toute heure une réponse parfaite à autant de questions. Peut-être la bénédiction supplémentaire à trouver en Dieu est donc une bonne dose d'intelligence, de discernement, d'amour et de sagesse. Peut-être enfin vous faut-il des choses que vous n'avez jamais encore imaginées ni connues. Jérémie 33, verset 3. Éveille justement notre attention sur ces choses encore inconnues qui font pourtant partie des bénédictions utiles à notre épanouissement. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ah, j'apprécie beaucoup quand j'entends des gens qui vont avant moi citer les versets parce que voilà une preuve qu'on lit la Bible et qu'on s'y intéresse, qu'on aime la Bible, qu'on aime la parole de Dieu, qu'on le connaît par cœur. Gloire à Dieu pour cela. Oui, en clair, ce passage de Jérémie 33, verset 3, nous confirme que vous ne savez pas encore tout ce que le Seigneur a préparé pour vous. Vous ne savez pas encore tout ce que le Seigneur a préparé pour vous. Jusqu'à présent, vous ignorez en effet par qui, par quel moyen et à quel instant Dieu veut vous faire quoi? Jusqu'à présent, ce que vous savez n'est rien de plus que ce qu'il vous a déjà montré, fait et donné. Et malgré tous vos efforts d'imagination et de recherche, il vous restera encore beaucoup de choses à découvrir, à acquérir et à expérimenter en lui. Actes chapitre 2, verset 1 à 4, par exemple, nous signale un tout petit peu ce qui s'est passé aux premiers chrétiens à Jérusalem il y a 2000 ans. Ces gens-là, pendant 3 ans et demi, ils étaient avec Jésus. Et avant qu'ils fussent avec Jésus, ils étaient juifs, ils savaient la loi de Moïse. Il savait ce que c'est Jéhovah, l'Éternel, qui bénit, qui agit, qui est tout-puissant. Mais savait-il qu'il y a le Saint-Esprit? Savait-il qu'il y a le baptême du Saint-Esprit? Que le Saint-Esprit pouvait agir et peut agir d'une manière extraordinaire, d'une manière qu'on n'ait jamais pu imaginer? Non. Il a fallu qu'il se soit instruit auprès de Dieu. Il a fallu qu'ils aient prié pendant 10 ans. Alléluia. Alléluia. Au moins, je ne l'ai pas abîmé. Ah, heureusement. Que Dieu vous bénisse. Vous me comprenez. Je suis à l'aise avec les gens qui me comprennent. Oh là là. C'est une bénédiction. En continuant d'ignorer les choses que Dieu prépare pour nous, les choses que nous n'avons pas encore connues, on risque fortement de lui déplaire et par là même de se priver d'une incomparable opportunité de prospérité, de paix, de joie, de vie éternelle. Parce que l'essentiel n'est pas de se sentir béni sur cette terre et on en finit là. L'essentiel, c'est d'arriver au bout de cette vie, passer dans la vie éternelle. Amen. Pourtant, ce que Dieu demande pour nous les révéler et nous les offrir, ces choses inconnues, jusque-là, est manifestement très simple. Très simple. Invoque-moi. 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 En d'autres termes, fais-moi une requête. Adresse-moi une prière. Mon ami, mon frère, ma sœur, voyez à quel point vos prières adressées au Seigneur peuvent donc être déterminantes pour votre présent et votre avenir. Vous avez le temps pour beaucoup de choses. Ayez le temps pour vous approcher de Dieu, de Jésus, de vous instruire auprès de son esprit, de puiser en lui tout ce dont vous avez besoin. Voyez à quel point votre bonheur en dépend. Veillez donc en sorte que la prière soit votre principale priorité quotidienne. Autrement dit, priez sans cesse! Priez sans cesse! Priez sans cesse! Comme 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, le recommande à tous ses lecteurs. Il convient cependant de noter que l'essentiel à chercher dans la prière n'est pas nécessairement de tout savoir, mais d'être divinement guidé, inspiré, pris en main pour être au bon endroit, au bon moment. Et le meilleur moment, le meilleur lieu, c'est le ciel. Amen. Alléluia. Mais ici aussi, il devrait y avoir un bon moment, un bon endroit où on devrait se trouver tous les jours. Et c'est l'Esprit de Dieu, la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu qui nous guide vers ces lieux-là, vers ces moments-là. Et c'est important. Ce qui est essentiel à chercher dans la prière n'est pas nécessairement de tout savoir, mais d'être divinement guidé, inspiré, pris en main pour être au bon endroit, au bon moment. Je le répète parce que il y a des points qu'il faut retenir, bien retenir dans l'esprit. C'est ce dont Dieu nous avertit précisément dans Ésaïe 42, verset 16. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai. Et je ne les abandonnerai point. Le chant que nous chantions nous le dit, Dieu ne nous abandonnera pas. Dans cette prophétie, Dieu ne dit pas que vous êtes obligés de tout voir et de tout connaître d'avance. Il promet seulement qu'il va vous mettre en rapport avec les personnes, les choses et les endroits qu'il a choisis d'utiliser pour votre bien. Ne soyez donc pas étonnés qu'il vous arrive encore de vivre comme un aveugle. Est-ce que cela vous arrive de vivre comme si vous êtes un aveugle? D'ignorer presque tout, de ne comprendre presque rien. Souvent on dit, Seigneur, je n'y comprends plus rien. Mais qu'est-ce qui arrive là? Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, je n'y comprends rien. Ne soyez pas étonnés. Lors même que vous l'aviez sérieusement prié de tout vous révéler. Très fréquemment, vous suppliez Dieu en disant, « Seigneur Jésus, montre-moi clairement à qui je dois me confier et révèle-moi où et quand je peux m'attendre à quoi. » Et malgré vos instants de prière, vous ne voyez et ne savez encore quasiment rien. Vous êtes obligé de tâtonner. Vous ne pouvez pas être pleinement sûr et certain que vous êtes là où vous deviez être, avec la compagnie qu'il vous faudrait. Ne laissez pourtant rien vous décourager, ni vous perturber dans votre foi. Contentez-vous plutôt de voir comment Dieu vous arrange les choses. Comment Dieu vous ferait un chemin. Comment il vous ouvre des portes à travers l'obscurité qui enveloppe votre monde. Observez, évaluez, appréciez l'endroit où il vous place, les gens qu'il met à vos côtés et les avantages qu'il vous en procure. Par exemple, vous êtes dans cette assemblée aujourd'hui. Sentez, mesurez ici la chaleur affective dont il vous entoure, la paix qu'il instaure dans votre âme, le repos qu'il assure à votre esprit et la consolation qu'il apporte à votre cœur. Et concluez qu'il n'est pas loin, concluez que Dieu n'est pas loin, il est là. Alléluia. Qu'il ne vous abandonne pas, qu'il vous tient fidèlement par la main et que vous êtes sans doute là où vous deviez être ce matin. Plus tard, d'autres expériences édifiantes vous le confirmeront de sa part. Pour vous encourager à progresser dans cette voie, je vous propose de réfléchir un instant sur deux passages de Marc chapitre 2. D'abord, Marc chapitre 2, versets 3 à 5. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Ils descendirent par cette ouverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Versets 11 à 12 de ce même chapitre de Marc, donc chapitre 2. « Je t'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant même, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Mon ami, mon frère, ma sœur, ce paralytique n'était sûrement pas le plus mauvais des hommes sur cette terre. Dans son cœur, il devait même penser que d'autres pouvaient être pires que lui. Il vous arrive peut-être souvent de se dire, est-ce que je suis le plus mauvais du monde? Pourquoi est-ce que c'est à moi que ça arrive? Et lui, le paralytique, avait donc suffisamment de raisons pour s'étonner et se fâcher de la paralysie dont il était frappé. En tout cas, les desseins de Dieu ne pouvaient pas lui être clairs à ce sujet. Ici en France, j'ai souvent eu l'occasion de discuter avec mes amis français, des hommes d'affaires, des directeurs, des ingénieurs. Et qu'est-ce qu'ils me disent? Oh là là, moi, la guerre 14-18, où était Dieu? À la guerre de 39-45, où était Dieu? Ah, nos parents, ils étaient très malheureux là-dessus. Et moi aussi, j'étais tout petit. Pourquoi ça nous est arrivé? Des questions difficiles. De toute façon, j'étais pas là. J'étais même pas né. Pourquoi voulait-il que j'y réponde? Il fallait qu'il vienne à Dieu, qu'il lui pose lui-même la question. Mais il me pose la question à moi qui suis un petit bonhomme qui est né quelques années plus tard. Eh bien, ils n'ont pas eu de réponse satisfaisante, comme le veulent les cartésiens. Les cartésiens comme les Français. Oh, attention, hein. Mais lui, le paralytique, il est différent, lui. Cette absence de clarté à propos des circonstances qu'il vivait aurait pu lui créer une intarissable source de questionnement contre Dieu et le pousser à se dire effectivement, oh, si Dieu est vraiment bienveillant et juste, pourquoi a-t-il permis que je sois infirme? S'il est réellement présent pour favoriser le bien, pourquoi m'avait-il pas évité ce malheur? Mais contrairement donc à ces Français cartésiens, vous ne l'êtes pas, vous êtes chrétien. Vous n'êtes pas cartésien, vous êtes chrétien. Oui. Alléluia. Ça fait quand même une différence, non? Oui. Alléluia. Hein? Ah, oui. Je vais l'empocher. Rappelez-moi quand j'aurai terminé. Mais là, je l'empoche. Alléluia. Mais contrairement au reste du monde, contrairement aux Français cartésiens, ce paralytique ne s'était pas embrouillé l'esprit par autant de questionnements difficiles. Visiblement, il s'était plutôt consolé de deux choses. Il faut savoir se consoler dans la vie. Est-ce que vous êtes d'accord? Il faut savoir se consoler, aussi cartésien qu'on puisse être. Se consoler, ça fait du bien. Ça fait de mal à personne. Se consoler. Eh bien, ce bonhomme-là, il s'est consolé de deux choses. D'abord, de l'excellente nouvelle selon laquelle Jésus pouvait le sauver. Est-ce que vous pouvez vous consoler de vos situations difficiles en sachant que Jésus peut vous sauver? Alors là, il y a une chance pour vous. La deuxième chose, c'est le fait que Dieu lui avait justement fourni quatre hommes de bonne volonté pour l'amener à Jésus. Oui, il avait certainement appris que Jésus-Christ était capable de le guérir. Et juste au moment où il avait reçu cette précieuse nouvelle, ses quatre amis avaient sans doute offert de le porter sur leurs épaules jusqu'à Jésus. Dans son cœur, voilà l'avantage de ne pas être cartésien. Dans son cœur, il dut donc dire, tiens, cette nouvelle et cette offre me sont arrivées en même temps. Quel beau concours de circonstances. Est-ce que vous rendez grâce à Dieu pour tout ce qui est beauté de circonstances, de concours de circonstances? Il y a des concours de circonstances qui ne trompent pas, qui montre que Dieu est quelque part et qu'il agit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Amen. Eh bien, lui, il y croyait. Je peux pas mesurer à quel point il était croyant. Mais Jésus dit, voyant leur foi, il lui dit, mon enfant, tu es guéri. Donc, il a une certaine dose de foi. Et c'est un avantage. Est-ce que vous avez une certaine dose de foi pour recevoir quelque chose de la part de Jésus ce matin même? Eh bien, vous l'aurez. Rien n'est impossible à Jésus. Eh bien, ce bonhomme de paralytique, dû, je l'imagine, poursuivre son petit raisonnement de bonhomme de chemin, de petit bonhomme de commun, de mortel. Je suivrai ce signe. Voilà forcément un signe que Dieu me fait de sa bonté. Je suivrai ce signe. Surtout parce qu'il m'encourage de venir à Jésus. Il y a beaucoup de signes. Mais s'il ne vous encourage pas à aller vers Jésus, autant les oublier. Parce qu'il y a, des dangers. Mais quand des signes vous encouragent de venir à Jésus, eh bien, sachez que c'est Dieu qui vous montre combien il vous aime. Donc, le paralytique avait décidé, je vais suivre ce signe, j'irai à Jésus. Je me laisserai porter jusqu'à Jésus. Et je suis certain que j'y trouverai le salut que je désire. Ainsi, il avait pu rencontrer Jésus. Et c'était dans cette rencontre-là qu'il avait obtenu le miracle tant attendu pour sa guérison. Avez-vous désespéré? Et en quoi? Sur qui? Avez-vous des rêves brisés? Vous avez un désir ardent dans votre cœur pour quelque chose, pour un salut, pour une délivrance, pour une solution particulière, à des besoins particuliers. Eh bien, Jésus est là. Il vous a amené là. C'est un concours de circonstances que vous êtes là, peut-être. C'est peut-être voulu que vous êtes là. De votre part, vous avez dit, bon, j'irai à l'église. C'était comme le paralytique. Vous avez décidé et vous êtes là. Jésus aussi est là. Et quels que soient vos besoins, il va y répondre. Loué soit son nom. Alléluia. Les situations obscures et les interrogations qu'elles suscitent ne manqueront pas. Il vous arrivera toujours de vous interroger sur telle chose, sur telle chose, sur telle circonstance, noire, divisible, obscure. Il y en aura toujours. Mais retenons qu'en préférant fixer notre regard sur Jésus, nous aurons sûrement du repos pour nos âmes. Nous aurons sûrement la solution que nous attendons de Dieu. Amen. Et ce qui est d'autant plus agréable à noter dans l'histoire de ce paralytique, c'est qu'au lieu de continuer à être un fardeau pour ses semblables, celui que Jésus peut bénir, peut plutôt devenir une bénédiction, une lumière, un message d'espérance pour le monde. Il peut y avoir bien des choses qui ne changent pas dans les conditions de vie matérielles, physiques. Mais il y a une possibilité de devenir une bénédiction pour les autres aussi. Depuis que Jésus avait merveilleusement béni, libéré, transformé le paralytique, ce paralytique-là n'avait en effet plus besoin d'être porté sur les épaules par ses amis. Il n'était pas apparu à ses bienfaiteurs comme un fardeau, mais comme un palpitant motif de joie. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des malades et des malades qui sont joyeux. Joyeux dans leur cœur. Non pas parce qu'ils sont malades, mais parce que la paix de Dieu sont en eux. La joie de Dieu les inonde. Mais c'est un paradoxe, quelque chose d'étonnant. Et c'est la raison pour laquelle Dieu dit, je te montrerai les choses que tu ne connais pas. Mais comment puis-je comprendre qu'un homme, qu'une femme malade peut être joyeux, joyeuse, tranquille, qui attend la mort même en toute tranquillité. Ce n'est pas l'agitation que d'autres personnes, ils ont pas peur de la mort, mais quand ils se tuent, oh là là, ça fait des crises, hein. Ils croient à la vie d'au-delà. Et ils se tuent, ils se donnent la mort, comme ça. Mais avec quelles circonstances? Mais les gens qui ont reçu Jésus dans leur cœur, qui glorifient Jésus dans leur vie, même s'ils sont malades, même s'ils sont au bord de la mort, ils sont tranquilles, ils ont la joie dans leur cœur. Et ça m'a beaucoup, beaucoup impressionné. En tant que pasteur, j'ai eu l'occasion de visiter des hôpitaux, des cliniques, voir des malades chez eux, et j'ai vu des choses pareilles. Et je me dis, ce Jésus-là, il est vraiment formidable. Personne n'aura fait quelque chose d'aussi extraordinaire dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Et rien qu'à les voir, on est béni. Oh, ces hommes, ces femmes-là, ils sont malades, ils sont heureux. Moi, je ne suis pas malade, et je ronchonne, je... Oh, ici en Europe, pour rien, on fait la grève. Je suis étonné de la mentalité qui se développe en Occident. Nous, en Afrique, Madagascar, dans les îles pauvres, on fait face à des difficultés énormes dans la vie de tous les jours. Mais grâce à Jésus, on a cette joie qui déborde, cette paix qui déborde, et qui fait que ceux qui nous voient s'interpellent eux-mêmes. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que vous pouvez être joyeux comme ça? Et parce que Jésus est avec nous. Alléluia. Jésus est avec nous. Et si je peux proposer quelque chose à chacun, c'est qu'il faut rester en Jésus. Quelles que soient les questions qui se posent, si les circonstances sont obscur et qu'on n'y comprend plus rien. Restons en Jésus, car là, il y a sécurité. Là, il y a paix. Là, il y a joie. Amen. J'aurai terminé, ne vous inquiétez pas. Je ne vous retiendrai pas toute la matinée, toute l'après-midi. J'aurai terminé. Alléluia. Eh bien, ce qu'il faut retenir de cette remarque, c'est que l'idée d'être béni de Dieu n'est donc pas seulement d'être libre et heureux, mais aussi de devenir une bénédiction pour la famille, les proches, les amis, les voisins. C'est beau de se sentir béni, libre et heureux. Oh, la Constitution, dans tous les pays développés, parle de la liberté. Oh, je suis libre. Je peux dire ce que je veux. Je peux manger, je peux boire ce que je veux. Je peux faire ce que je veux. Si je veux casser tout le monde, je casse. Voilà la liberté pour les uns. Voilà la liberté pour les autres. Je casse tout le monde si je veux. Si je veux que je te casse la gueule, je te la casserai. Aucun problème. La Constitution me le permet. Oh. Ce n'est pas une bénédiction. Voilà la différence entre les gens que Dieu, que Jésus bénit et les autres. Quand on est béni de Dieu, on est une bénédiction. Amen. C'est beau de se sentir béni, libre et heureux. Mais c'est souvent un sentiment trop court. Un sentiment trop superficiel, trop limite pour être constructif. Parce qu'en réalité, on peut encore malheureusement constituer un fardeau pour les autres, lors même qu'on se félicite d'une sensation de liberté et de bonheur. Celui qui croit être béni de Dieu devrait donc veiller à ce que son caractère, son langage et son comportement ne puissent plus injustement peser sur les autres. Mon ami, mon frère, ma sœur, pensez-vous être assez béni de Dieu maintenant? Hein? Pensez-vous être assez béni de Dieu maintenant? Croyez-vous que Dieu vous a rendu grandement libre et heureux? Avez-vous donc cessé d'être un fardeau, un souci pour votre famille, vos amis, vos voisins? Ceux-ci trouvent-ils que vos paroles, votre attitude, vos gestes et vos actes ne sont plus trop lourds à digérer, ni trop durs à supporter? Oh, il y a bien des gens qui ont des paroles et des actes et des attitudes trop lourds à supporter. Ouh là 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 là. Est-ce que ceux qui vous entourent peuvent donc sérénement vous écouter, vous exprimer leur avis, vous partager leur peine et leur joie, bref, vivre sans inquiétude, sans crainte, sans trop de risques avec vous? Êtes-vous donc devenu pour eux une bénédiction, un motif de soulagement, d'espoir, de quiétude? Peut-être vous n'avez pas d'argent, mais rien qu'à vous voir, les gens alentour sont rassurés. Il y a un charme qui étonne dans votre visage, dans votre manière de vivre, qui fait penser, bien, tiens, il a quelque chose dans le cœur, dans la vie. Jésus est en lui. Si tel est vraiment votre cas, n'ayez aucun doute sur la dignité de votre sentiment de liberté et de bonheur. Dans le cas contraire, reconnaissez qu'il vous manque encore de nombreuses bénédictions spirituelles et qu'il vous faut sérieusement les désirer, les découvrir dans la parole de Dieu et les demander d'urgence au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le temps de le faire. Au lieu de vous complaire dans la beauté de ce que vous croyez avoir vu, entendu, appris, reçu, expérimenté, soyez donc assez curieux de savoir ce que Dieu veut encore vous révéler et vous offrir. Mieux encore, faites-vous aider par cette Église dans cette recherche. Ah, les gens qui cherchent Dieu et qui n'aiment pas l'Église ne réussissent pas. Il faut une Église. Parce que Dieu a institué l'Église. Et ce n'est pas pour rien. C'est pour aider. C'est pour entretenir les uns les autres dans une atmosphère de foi, d'espérance. Et c'est là aussi que le Saint-Esprit agit et donne tout ce qu'on espère. Donc, faites-vous aider par cette Église dans cette recherche. Sans aucun doute, elle veut et peut vous apporter cette aide. Joignez-vous donc à elle, assistez à ses réunions, suivez son conseil et priez avec elle. Aujourd'hui même, ne partez pas d'ici avant de vous unir à tous les membres de cette Église dans la prière. ayez quelque chose de précis à dire au Seigneur Jésus-Christ avec eux. Oui, avec toute cette assemblée. Levons-nous. Levons-nous. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre bouche. Exprimez à Jésus vos sentiments et vos besoins. Il est là pour vous écouter. Il est là pour vous exaucer. Il vous aime. Il vous aime. Loué soit Jésus. Alléluia, Jésus, l'échelle, dite, couraïm, couraïm, m'achelle, alléluia, me révèle, dite, oh, gloire à toi, Jésus. Tout ce que nous désirons, Seigneur, est en toi. Tout ce à quoi notre âme, Seigneur, aspire est en toi. Tu es notre sauveur, notre roi, la source de notre vie. Loué sois-tu, Jésus. Tu connais, Seigneur, les soupirs de chacun ici présent. Tu connais, Seigneur, ses besoins. Tu connais, Seigneur, son espérance. Tu connais aussi, Seigneur, ses soucis, ses inquiétudes, ses questionnements. Élève-toi, Seigneur, au-dessus de tout cela. Glorifie-toi, Seigneur, en donnant à chacun selon ses besoins. Aujourd'hui, Seigneur, nos pensées et nos regards sont fixés sur toi. Loué sois-tu, parce que tu vois nos cœurs, tu vois nos pensées, tu vois combien chacun désire voir ta gloire ce matin. Glorifie-toi, Jésus. Et accorde à chacun selon ses désirs. Que les malades guérissent en ton nom, Jésus. Quelle que soit la nature de leur maladie, Seigneur, qu'ils soient guéris maintenant. C'est toi notre guérisseur, Seigneur. Oui, Jéhovah Rapha. Loué sois-tu, Jésus. Alléluia. Que personne ne rentre, Seigneur, sans expérimenter la puissance de ta résurrection, la puissance de ton nom. Oh, la délivrance en ton nom, Seigneur, par rapport à tous ceux qui les préoccupent. Loué soit Jésus. Oh, nous avons besoin de toi, Seigneur. Notre cœur se tourne vers toi, Seigneur. Et compte sur toi. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Merci, Seigneur, de ce que tu entends nos voix. Tu tiens compte de nos soupirs. Et tu nous exauces. Tu nous exauces. Tu l'as déjà fait auparavant, Seigneur. Ce n'est pas la première fois que tu agis en nous, que tu agis pour nous. Tu as déjà fait, Seigneur. Tu es même mort à la croix de Golgotha pour nous. Tu es ressuscité et tu sièges au-dessus des cieux, gouvernant toutes choses en notre faveur. Loué soit Dieu Jésus. Loué soit Jésus. Loué soit Dieu. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour toutes choses. Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci de votre attention. J'étais peut-être un peu long, mais vous avez supporté. C'est l'essentiel. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je laisse la parole à mon frère.